I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes, lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes!
Dans la bulle immobilière.
Jusqu'à 16h.
La bulle, ça se perce pas facilement.
Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9.
La bulle, c'est fragile, la bulle.
C'est la bulle immobilière.
Avec Jean-François Morin
et ses invités.
Achat, vente, immobilier, marché, courtier, investissement, multilogement, inspection, financement, droit immobilier.
Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
Ladies and gentlemen, let's go.
Bienvenue à notre 12e saison de la bulle immobilière à CJMD 96.9. Vous étiez à l'écoute du jargon avec Guillaume Fortin. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et c'est maintenant le temps de votre émission nichée sur l'immobilier, la bulle immobilière. Salut Michael, comment ça va?
Salut Jean, ça va super bien toi?
Ça va super bien. Écoute, la saison 12, tu t'es prêté au jeu de pouvoir co-animer avec moi. Tu me fais découvrir tout ton réseau d'affaires, puis pour vrai, là, t'as des gens qui sont des superstars qui gravitent autour de toi. Là,
là t'es, oui, effectivement, mais là, t'es pas trop tanné de moi encore. Là. Ça fait quelques épisodes qu'on tourne, là, ça va, là, tu veux pas me mettre dehors encore.
Hey, pas tout, puis sais-tu quoi, c'est bilatéral, là. Ça peut aller autant de ton bord que de mon bord, fait qu'on est là vraiment pour s'amuser.
Yes.
La bulle immobilière, c'est toujours là pour pouvoir aider les gens, de pouvoir parler d'immobilier, puis immobilier at large. On a parlé de marketing, on a parlé de ressources humaines, on a parlé de la synergologie, on a parlé de plein d'affaires, mais on parle aussi de réels concrets, de situations concrètes sur l'immobilier. Puis Michael, j'aimerais ça que tu puisses me faire un peu le topo de notre invité, parce que tu sais, tu le connais déjà, il y a déjà des projets, vous avez des relations d'affaires aussi. Fait que tu sais, mets-moi la table un peu sur... Ben, on va dire son prénom, Félix Olivier, mais on va le présenter tout de suite après.
Absolument. Félix Olivier Brochu, en fait, là, qui est propriétaire de Stoica Immobilier. En fait, c'est ça, on s'est rencontrés, ça fait peut-être un an, là, 2022, sur un projet qu'il faisait à Saint-Anselme. Écoute, c'est un jeune promoteur, je dirais, un développeur qui est assez mindé là, depuis quelques années dans le développement immobilier, qui a commencé dans l'usager, qui est rendu dans le neuf. Évidemment, il va nous parler un petit peu plus de ses projets tantôt. Mais bon, quelqu'un qui est beaucoup sur la rive sud de Québec, je pense. Là. Donc, salut Félix Olivier, comment ça va?
Salut, ça va bien et vous?
Ça va super bien. Merci de participer à l'émission.
Merci à vous. Merci à vous.
Puis écoute, Félix Olivier, tu as eu l'opportunité de connaître Michael sur... vos parcours professionnels sur différents besoins. Mais j'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu de toi, ton parcours, ton background, parce que tu sais, on parle de l'entreprise Stoica Immobilier, mais il y a un entrepreneur derrière ça, puis il y a un parcours derrière ça. J'aimerais ça que tu puisses nous mettre la table un peu. T'es qui, t'es quoi, pourquoi l'immobilier, puis comment ça se fait que t'es rendu là?
Ben, ça part de... En fait, moi, depuis, je dirais, peut-être la fin de mon secondaire, que je m'intéresse à l'immobilier un peu par la bande à travers différents ouvrages, entre autres là, bon, les livres de Jacques Lépine, les classiques là, du Club Investisseur Immobilier. J'allais aux rencontres mensuelles, souvent aussi au début de ma vingtaine à travers ça. Moi, j'ai toujours su en fait que l'entrepreneuriat m'intéressait, puis bon, à travers différentes expériences, je savais que c'était ça que j'avais envie de faire dans la vie. Je viens d'une famille d'entrepreneurs à base, là. Mon père était agriculteur, là. Ben, il est encore agriculteur, en fait, là. Ça arrive ça de Québec.
Ça te coulait dans les veines, là, un petit peu, là.
Ouais, ben, tu sais, je dirais, ça a tout le temps été, j'ai baigné là-dedans, là, toute mon enfance, en fait, là. Donc, c'est ce qui m'intéressait. C'est ce que je pense que je serais le meilleur parce que j'étais un très mauvais employé quand j'étais... Finalement, c'est souvent l'indice qu'on a. Quand on n'est pas un bon employé, on se dit bon...
Je te comprends là-dessus.
Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Ben, en fait, j'ai commencé là-dedans à travers l'entrepreneuriat. J'avais commencé à 21 ans à partir d'une compagnie de taille de headset, en fait, sur la rive sud de Québec. J'étudiais en entrepreneuriat à Lucar, à Lévis. Donc, le profil certificat en entrepreneuriat, j'ai fait un certificat en finance aussi. Puis après ça, j'ai décidé de mouver ailleurs à travers ça. Là. Mais bref, puis les pros taille des headsets, en fait, là, c'est à partir d'un jeu de mots qui était un gag dans un cours entrepreneurial. Puis finalement, je me suis rendu compte aussi à travers le temps puis les deux premières saisons qu'il y avait une vraie demande pour ça. Puis moi, j'avais parti ça à l'époque avec un ami qui était le propriétaire, le fondateur du CrossFit Lévis à Lévis, là, que je m'entraîne depuis une dizaine d'années. On avait parti ça ensemble, on en faisait ensemble. Puis bon, après ça, je me suis enregistré finalement officiellement en 2015. Puis j'ai, bon, à travers le temps, j'ai eu des employés, j'ai eu des équipes, là. Ça a super bien été, puis c'est un domaine que j'aime beaucoup, travailler dehors. Je viens de là, j'ai grandi sur une ferme. Fait que ça a parti de ça. Puis en fait, moi, j'avais toujours en tête que ce que je voulais faire dans la vie, c'était investir en immobilier. Ultimement, mon objectif final, c'était de construire des logements, faire de la construction neuve. Mais au début, j'ai commencé évidemment dans l'usager parce que bon, ça coûte, c'est cher à commencer dans le développement. Mais oui, fait que l'idée, ça a tout le temps été en fait que les pros fournissaient finalement Stoïka Immobilier.
Les pros, dans le fond, c'est pour comme la haie, si on veut, mais pro.
C'est ça. Ça s'écrit les, comme un jeu de mots, là, donc L'HAIES. Donc les pros. Comme je vous dis, là, c'est un gars de 21 ans qui a pensé à ça.
quand même jeune là, pour dire je pars en affaires, je me pars une business, investissement immobilier.
C'est sûr que le risque n'était pas, on s'entend, là, c'était assez.
C'était ton temps, beaucoup pour.
C'était mon temps, oui. Ça a commencé avec un Dodge Caravan 2001 que j'ai acheté sur, à l'époque, l'EPAC, là, 1 000 $, puis je l'ai toffé 3 saisons.
Ouais.
Puis louer un taillet, même au début, j'avais même pas encore acheté de taillet. Je louais un taillet chez Simplex, puis là, j'allais cogner aux portes, puis je peux tailler votre headset pour tant de. Puis c'est ça, ça fonctionne.
Je suis prêt maintenant, puis ça va être fini, genre, dans la prochaine heure. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais, puis ça marchait bien, parce que bon, tu sais, les gens sont chez eux la fin de semaine, puis c'est intéressant. Au début, la première été, en fait, je travaillais de nuit au Collège de Lévis comme gardien de sécurité, puis je passais la MOP, là, fait que je travaillais là. Puis j'essayais de dormir un peu le matin, l'avant-midi, par ça, j'allais l'après-midi tailler des headsets. Là. Fait que c'était ça, mon premier été en affaires en 2014, ça a été ça. Là. Fait que...
Puis t'es un gars de Lévis-Lévis. Tu disais dans ton parcours qu'en 2014, t'as commencé à faire des premiers investissements, peut-être plus sur des immeubles un peu plus vieux, déjà sur le marché de la revente. Fait que tu sais, parle-nous donc un peu de ton parcours aussi sur tes premières acquisitions, premières histoires d'investissement là, par rapport à...
Ouais, ben ouais. J'ai acheté mon premier immeuble, en fait, sur la rue Saint-Édouard à Lévis, un 6 logements, qui était ancienne maison, qui avait été raboutée de tous bords, tous côtés. Un classique premier investissement qui est sur la rue adjacente au premier investissement que M. Parent de Logisco avait acheté. Là. Moi, je me fiais à ça. Là. Je disais, ça va être un bon secteur si M. Parent il avait acheté son premier là. Puis c'est un excellent secteur, je veux dire, ça a été bon. Mais écoute, c'est venu avec plein d'apprentissage. Là. Je pense que j'ai eu peut-être 3 cas de régie du logement à l'époque là, dans cet immeuble-là. Beaucoup de dégâts d'eau, beaucoup d'apprentissage. C'est un immeuble aussi que j'ai habité pendant comme 4 ans. Beaucoup de rénovations, on a rénové des logements. Je dis « on », mais c'est mes amis en construction qui ont rénové. Moi, je passais le balai puis j'ai amené les matériaux.
Étais-tu en partenariat à ce moment-là?
Celui-là, je l'ai acheté avec mon père, okay. Ouais, le premier immeuble. Puis tu sais, ça a été vraiment une école d'apprentissage. Puis ça a été aussi... C'est un immeuble qu'on a revendu, en fait, là, il y a 2 ans. Là, que bon, ça n'a pas été le coup de circuit du siècle, là, mais ça a quand même bien été. Surtout parce que bon, l'immobilier de 2014 à 2022 a pris
une certaine valeur.
C'est ouais. Ça. C'est dur de perdre de l'argent en immobilier sur une période, je dirais, de...
7 à 10 ans.
Ouais, 7 à 10 ans, là, si tu as perdu de l'argent, c'est parce que ça a vraiment pas bien été. Là. Fait que ça a été mon premier investissement. Ensuite, en 2016, on a acheté un deuxième 8 logements à rue Saint-Omer à Lévis, dans le Vieux-Lévis. Que celui-là a été vraiment plus un apprentissage musclé, je dirais. Là,
ça. Puis là, t'étais-tu 8 logements, mais aussi amené en maison de chambre un peu pour les résidents, etc. Là?
C'était une genre de. Ouais. Ça a été plus de 4, 4, 2,5, 4, 4,5. Mais on parle, le plus grand logement, il y avait peut-être 720 pieds carrés. Là.
Our un 4,5.
Pour un 4,5.
Maintenant, c'est ce qu'on construit, mais on s'entend qu'à l'époque, c'était crûment pas ça.
Non, c'est ça. Puis c'était rabouté, c'était mal divisé. Ben, c'est les divisions des années 60 là, qu'on connaît. Là. C'est la cuisine puis le salon à part. Bref, fait que celui-là, il a été très difficile. On a eu à peu près tout ce qu'on peut nommer sur, mettons, les problématiques qu'on peut avoir dans un immeuble à revenus. Là, on les a eues. Je veux dire, on a eu 2 feux, en fait. On a eu comme 3-4 dégâts d'eau. Je veux dire, des locataires qui payent pas, des locataires qui étaient des professionnels du TAL, là, fait que connaissaient les règles du TAL puis qui jouaient avec ça. On a eu beaucoup de misère.
T'as la chance d'avoir un apprentissage incroyable, là, parce que quand tu fais affaire avec les pros du TAL, là, tu sais, c'est comme.
C'est ça.
T'es sur le fast track sur l'apprentissage, là.
Ouais, puis, tu sais, écoute, je veux dire, c'est vraiment. Ça a été un bon apprentissage. C'est un immeuble qu'on a revendu à perte, je dirais, là, après 4 ans de détention, là. Fait que ça a vraiment pas été. Je dis souvent à blague, là, que cet immeuble-là, la plus grande. Je dirais le plus grand bénéfice financier qu'il m'a donné, c'est qu'il était tellement déficitaire qu'il m'a fait sauver de l'impôt pendant 4 ans, là. Parce qu'il m'enlevait de revenus sur mon revenu. Fait que je veux dire, c'est quand même.
C'est un bel apprentissage aussi au niveau comptable et fiscal.
Oh, oui, c'est ça. Exact. Puis je veux dire, le secteur restait bon parce qu'on était proche de l'hôpital, proche. C'est un secteur, tu sais, le Vieux-Lévis, qui est. Je pense qu'il est appelé à être mieux développé, mieux géré. C'est ce qu'on a essayé de faire, mais ça a été difficile avec la clientèle qu'on avait à l'époque. Mais je crois encore beaucoup en ce secteur-là. Je veux dire, le Vieux-Lévis, c'est super beau, c'est super, tu sais, on est super bien situé, mais c'est ça. Il y a des types d'immeubles, un type de produits qui attirera pas nécessairement tout le temps les clients qu'on veut, là, mais.
Puis il va demander aussi beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de réflexion long terme. Puis il va falloir avoir un engagement aussi municipal où ce que, tu sais, la municipalité veut aussi revaloriser ces secteurs-là parce que. Veux pas, c'est des secteurs qui ont été délaissés, les propriétaires. Puis là, on parle de Vieux-Lévis, Saint-Joseph, etc. Ah, là, c'est des secteurs qui ont été délaissés. Par contre, la localisation extraordinaire, la proximité extraordinaire, la vue sur le fleuve régulièrement, là, mm-hmm. sur ce secteur-là aussi. Fait que, définitivement, qu'il y a des beaux projets à mettre en place. Puis on en voit pousser de temps en temps un nouvel immeuble qui s'ajoute. Qui vient l'incorporer. Puis, tu sais, je pense que l'ouverture de la ville est beaucoup plus sur une orientation de valoriser ce secteur que là de passer sur des power trips sur des détails architecturaux parce qu'il y a déjà eu cette démarche-là avec la municipalité. Puis, arrive le neuf dans ton parcours, c'est dans quelle année que ça.
J'ai commencé en 2020, la construction neuve. C'est à suite, je dirais. Après avoir vendu mon premier immeuble, ben en fond le celui sur Saint-Omer qui était déficitaire, puis je me suis dit bon là, ça faisait déjà une couple d'années que j'étais profitable avec les pros, puis j'avais vraiment envie de me lancer dans le neuf. Je voyais aussi un peu, j'avais fait le certificat de la MREX là, avec Nicolas Ray. Moi Nicolas, je le connais depuis 2013, là, fait que j'ai quand même souvent eu des discussions avec lui avant qu'il devienne le Nicolas qu'on connaît aujourd'hui. Puis lui, ce qu'il m'avait souvent dit, c'était il y a une énorme opportunité qui s'en vient dans le logement neuf en ce moment. Mais à l'époque là, tu sais. Les gens, ils construisaient un immeuble, puis ça leur coûtait moins cher à construire que la valeur du financement à la fin, puis ils ressortaient des billes après le financement de la construction. Là, on n'est plus là. Mais moi, à l'époque, c'est ce que j'avais en tête en 2020. J'ai signé, écoutez, le contrat de construction, on était le 2 mars 2020. Là. Donc, c'est environ une semaine ou deux avant que la pandémie.
13 mars, la pandémie.
Oui, exact.
Donc, c'était avant que les coûts de construction aussi explosent.
C'était avant que les coûts de construction explosent. À l'époque, je dirais, bon, j'ai passé un genre de 3-4 mois stressé. Là. Tu sais, tu as 26 ans, tu viens de signer une construction neuve d'un 8 logements qui va coûter peut-être 1,5 million à construire. Mais, tu sais... Les taux d'intérêt qui sont venus par après m'ont tellement permis. On a signé 1,7% fixe sur 5 ans. Là, fait que ça m'a permis de ressortir pratiquement le financement, une bonne partie du financement sur le coup. Puis c'est ce qui m'a vraiment sauvé, je dirais. Là, l'aide d'urgence du gouvernement aussi à ce moment-là pour les entreprises. Mais puis j'ai eu une bonne année avant et après, les années après, avec les pros qui m'ont aussi permis de construire d'autres logements après. Mais ouais, j'ai vraiment commencé en 2020. Pour la construction neuve. Là.
Mais ça, c'est super intéressant qu'est-ce que tu dis, là, tu sais, avec l'EPRO, dans le fond, de combiner une business opérante avec l'immobilier. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui se startent juste en immobilier. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'on oublie aussi, c'est que l'immobilier, c'est beaucoup une game de financement. Tu sais, des fois, il y a moins de cash flow. C'est beaucoup du financement, tu sais. Fait qu'avoir une business opérante à côté qui, elle, génère un vrai cash flow pour.
L'injecter.
C'est ça, fider, injecter le volet immobilier, ça, c'est super intéressant comme modèle d'affaires.
À 100%. Puis, ce que moi, j'ai été chanceux, je crois, dans ma vie, là, c'est que j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement immobilier à partir de 18 ans. T'sais. Fait que toute la période délusionnelle qu'on a quand on commence à s'intéresser à l'immobilier, que les gens ont les deux premières années de.
Profit à l'achat,
je vais pas mettre de mise de fonds, je vais acheter sans mettre de capital.
Parce qu'il y a beaucoup de rêves qui est vendu et qui est véhiculé pareil à ce
absolument. Puis surtout aujourd'hui, là, c'est rendu complètement débile là, ce qu'on voit. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir cette période-là en 18 et 20 ans. Fait qu'à 20 ans, j'étais déjà gearé, j'étais déjà prêt à dire bon, ben là, garde.
Ça arrivera pas,
ça me prend. C'est de l'investissement immobilier. Donc, pour le mot investissement, c'est important qu'il faut que tu aies de l'argent à investir. Tu peux pas commencer un investissement immobilier sans capital, sans argent. Ça arrive très rarement. Puis quand ça arrive, il y a souvent quelque chose derrière. Fait que moi, ça m'a permis justement de savoir ça. Puis avec, j'avais en tête tout le temps l'EPRO. Moi, en fait, c'est pas compliqué. Là. 100% des profits de l'EPRO depuis 2015, depuis 2016.
Sont réinjectés.
Sont réinjectés en immobilier, tout le temps.
Puis tu sais, une des choses que je trouve intéressante, puis tu sais, on a beaucoup de discussions off-mic aussi là au niveau de la bulle immobilière, tu sais, la pré-entrevue, tu sais, à la réception, quand on arrive dans un studio, entre les pauses, etc. On jase quand même de plusieurs sujets. Puis tu sais, à toutes les fois, il y a un apprentissage qu'on a à avoir, tu sais. Il y a des choses qu'on n'a pas vécues, que là, finalement, tu dis que c'est une game de financement, Michael, ben tu sais, moi, récemment, c'était comme sur le projet, je suis comme, ah, crème, il faut avoir une valeur nette d'un million. Je suis comme, oh, palais, tu sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait qu'il y a toujours des nouveaux éléments qui font en sorte que quand tu parles avec des gens qui sont déjà impliqués dans le milieu, ben, sont capables de nous amener à bien rayonner puis réussir à bien le faire. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça quand même très hot de pouvoir faire ça. Puis, un des points que je trouve intéressant aussi dans ton parcours, c'est que tu as une business opérante, qu'il génère des revenus bruts. Puis, qu'est-ce qui est intéressant de ça? C'est que tu prends ton argent brut, que tu transfères dans tes sociétés immobilières aussi. Fait que, tu sais, y a pas d'impôt nécessairement à payer tout de suite sur ton investissement, etc. Puis souvent, les gens vont vouloir toujours faire de l'investissement avec leurs capitaux propres personnels. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça fait en sorte qu'il y a toujours un 50% qui est laissé sur la table à cause de l'imposition, etc. Tandis que quand on est capable de le faire transiger par notre société, bien, ça fait en sorte que c'est de l'argent brut qui est transféré à de l'argent brut dans une autre société, puis ça donne quand même un meilleur coup de main. Là. Tu dois avoir eu un bon coup de main sur des projets
exactement,
avec ça.
Exactement, parce que avec la Inc, on paye peut-être 22% d'impôts versus si je me payais tout ce que je fais de profit avec les pros en salaire, ce serait pas long que je serais pas mal à 53,3% d'impôts que je paierais. Donc, c'est sûr que le 30% de différence, ben il va pas dans l'immobilier, là, il va au gouvernement. Donc, moi, c'est sûr que ça a tout le temps été ça, la stratégie. C'est d'une Inc à une autre, puis l'Inc investit en immobilier. Donc, les pros incorporés fournit Stoïka Immobilier Incorporé, puis ça a tout le temps été ça l'objectif. Là. Mais c'est sûr et certain, à moins, honnêtement, là, d'être un. Ben encore là, je dis radiologiste ou médecin, mais ils sont incorporés eux aussi. Là, mais c'est très rare qu'avec un salaire qui était imposé au taux marginal d'imposition d'un salarié, que tu vas réussir à te créer un parc immobilier rapidement, je dirais. Là, ça, c'est difficile.
Puis souvent, tu sais, je ne veux pas généraliser, mais ceux qui ont un salaire, mettons, de 200 000 ou X, ouais. Ben souvent, le mode de vie vient un peu avec.
Exact.
Ah oui, 100%.
Les, au final, les liquidités qui restent à injecter dans des projets, ben, ils peuvent ouais. être.
Tu sais, je me rappelle d'avoir rencontré Alex Blouin, puis il dit écoute, il dit, je travaille avec un couple de dentistes, ils font de l'argent comme ça, n'a pas de bon sens, mais ils ont un rythme de vie qui flambe 800 000 par année. Là. Fait que, eux autres, oublient ça d'investir. Là. Eux autres, ils flambent leur cash à l'année. Puis, tu sais, c'est du roulement, du roulement, du roulement, du roulement. Puis, tu sais, une des choses que Nicolas Reid disait quand même bien, puis moi, c'est ce qui m'avait vraiment plus aligné avec la MREX au départ. C'était comme, écoute, tu veux faire de l'investissement immobilier, là, arrête de commencer à têter pour un solde de prix de vente, arrête de commencer à têter pour que quelqu'un te prête de l'argent. Commence à faire de l'investissement, commence à juste conserver ton argent pour faire de l'épargne, puis mais que tu aies de l'argent, là, tu feras de l'investissement, puis mais que tu aies fait de l'investissement, puis tu sais, je sais quoi, tu aies de skin in the game, là, ouais. Ben là, tu pourras demander un petit peu plus d'ouverture avec les gens. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis il y a des partenariats qui s'est développé. Tu as construit aussi 3-6 logements. Écoute, le temps file, puis on est juste dans ta présentation. Fait que tu sais, j'aimerais ça quand même que tu puisses aller peut-être un peu plus sommairement sur tes projets neufs que tu as fait par la suite. Là.
Ben, moi, je suis tombé en amour avec le neuf après la construction du 8 logements. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé, c'est moi, là, je suis allé chercher des terrains. J'étais à la recherche de terrains pendant près d'un an après le projet de 2020. Puis j'ai trouvé des terrains à Saint-Anselme qui étaient à vendre par la municipalité de Saint-Anselme, qui n'étaient pas des terrains, je dirais, intéressants à première vue. Là. C'était vraiment des terrains qui étaient raboutés. C'était un ancien éco-centre, un ancien site d'enfouissement. Il y avait un peu de contamination légère qu'on a réussi à décontaminer. Je me suis lancé dans ce projet-là un peu tête baissée en me disant, ce que je voyais, c'était beaucoup qu'il n'y avait plus de terrain à vendre au Québec. Puis j'avais peur de manquer le bateau de la construction neuve. Je voyais aussi que la deuxième, troisième couronne des grands centres était à développer, qu'il y avait un énorme manque de logements en région.
Au lieu de te faire peur, parce que c'était un petit peu plus loin, mettons, que le centre, tu as vu ça comme une opportunité.
Exactement. Il y a un manque de logements dans ces secteurs-là, puis c'est important. Les régions méritent d'être desservies autant que les grandes villes. Moi, je viens de Saint-Henri, donc ultimement, les terrains que j'ai achetés viennent de peut-être 10 minutes de où ce que j'ai grandi. Là. Donc, je connais très bien le secteur. Puis, j'ai acheté ces trois terrains-là de la municipalité qui n'étaient pas chers, mais qui valaient pas cher. T'sais. Puis, on a retravaillé ça. Quand on a fait l'excavation d'un des terrains, on a trouvé des canisses d'huile. C'était quand même quelque chose des pneus usagés là, qui avaient été enterrés là. Ça a bien été, somme toute. Ensuite, on a pieuté un des logements parce qu'on pouvait juste pas sortir tout le matériel qu'il y avait là. Fait qu'on a fait un pieutage de 28 pieds de profond. On a construit un premier 6 logements qui a été livré en novembre 2022. Puis les deux autres ont été construits après, qui ont été livrés autour de l'été 2023.
Quand même cool. Puis arrive Stoïka Immobilier. J'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que ça veut dire, Stoïka?
Stoïka, en fait, ça vient du stoïcisme, qui est une philosophie grecque ancienne là, que je me suis un peu basé à travers mes expériences entrepreneuriales pour l'idée du stoïcisme, en fait, là, c'est de contrôler, c'est le contrôle de soi puis le sacrifice présent pour quelque chose de meilleur plus tard. Là. Donc, moi, je trouve que ça rejoint énormément l'immobilier à travers la classe d'actifs que c'est. Tu sais, en fait, quand on investit en bourse, on contrôle pas ce qu'on fait, on contrôle pas l'actif qu'on achète. L'immobilier, c'est tout le contraire. On met de l'argent dans un projet, dans un véhicule d'investissement, mais c'est nous qui a les mains sur le volant, puis c'est nous qui décide de qu'est-ce qu'on en fait.
C'est un point tellement important. Là. Moi aussi, quand j'ai des discussions avec des gens, je dis aux gens, je suis allergique à la bourse parce que quand je place mon argent à la bourse, pour moi, c'est un peu comme du gambling. T'sais. J'ai aucun contrôle sur les entreprises dans lesquelles je vais investir. Il y en a qui connaissent ça, puis ils suivent ça, mais c'est pas la même chose que acheter un terrain, que tu choisis l'emplacement, que tu as une stratégie.
Il y a une question de concret. Là. Il y a du mortier, il y a de la brique, il y a quelque chose palpable, touchable, là, qu'on peut voir grandir. Puis en même temps, quand on commence à faire du neuf, moi, je vois ça beaucoup plus loin que ça. Là. Le patrimoine bâti qu'on laisse, je donne un exemple, vous avez plusieurs projets de construction neuve, etc. Quand que vous allez avoir 70, 80 ans, vos enfants, peut-être que l'immeuble va vous détenir encore dans le patrimoine familial, peut-être pas non plus, sauf que le patrimoine bâti va rester là quand même. Ouais. Ça, c'est papa qui a construit ça, ça, c'est papa qui a fait ça. Mm-hmm. Je trouve ça très hot, qu'est-ce que ça donne comme empreinte aussi positive pour l'environnement puis la collectivité. Là.
J'ai tout le temps eu cette vision-là de... du très long terme, là, t'sais, d'être patient, d'être impatient d'être patient, là, je veux dire, là-dedans. Puis je lisais justement dernièrement un article, là, c'était une image qui disait, t'avais la strip de Las Vegas, la Main Street à Las Vegas qui a été vendue pour 3 millions en 1955. Puis aujourd'hui, la même strip, juste un des terrains de cette main road-là, elle génère environ 10 milliards de revenus par année. T'sais.
Wow.
On parle en 70 ans de différence, ce qui est long pour un être humain normal, mais pour, mettons, une famille, pour une génération, c'est pas si long que ça, tu sais. Puis moi, c'est tout le temps avec cette mentalité-là que j'ai vu l'investissement immobilier. Moi, oui, bon, peut-être de bien en vivre, faire des voyages, bien manger, aller profiter de la vie, c'est mon objectif personnel, tu sais, présent et futur, mais au-delà de ça, si j'ai des enfants un jour, l'objectif, c'est qu'eux puissent en vivre, puis que leurs enfants puissent en vivre, puis de créer une genre de... Je dirais pas un empire, là, humblement, là, mais...
Je travaillais dans l'entreprise aussi.
Exact.
Puis,
un patrimoine familial. Puis, quelque chose qui reste aussi pour eux aussi. Là. Écoute, Michael, c'est-tu intéressant? 20 minutes de passé déjà, premier segment. On a 45-50 minutes de contenu à produire. Fait qu'écoute, il va rester du stock en tabarouette. Ce premier segment est présenté par Plan de match Renault. Plan de match Renault est votre allié pour planifier, budgétiser et optimiser vos projets de rénovation et d'immobilier, que ce soit pour la planif, l'exécution, la reconfiguration. Contactez Kevin Filion sur Facebook, sur Plan de match Renault. On revient tout de suite après la pause.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Oui, ils veulent acheter ton bloc.
De retour à la bulle immobilière avec Michael Faleschini de Gestion Faleschini Mercier. Pour vos besoins en gestion et location immobilière, c'est quand même simple. On te contacte directement?
Oui, vous pouvez. Il y a notre page Facebook, Gestion Immobilière Faleschini Mercier. Site web groupemercini.com. On est très facile à joindre et très présent aussi sur les réseaux sociaux.
Puis on est tous les deux membres à titre d'administrateur du réseau immobilier. Puis une des choses qui est vraiment le fun avec le réseau, c'est que des déjeuners-conférences. On va recevoir Mathias Haché qui va venir à notre émission, mais qui va venir faire une conférence aussi, déjeuner-conférence avec le réseau immobilier. On parle de financement, puis pour vrai, là, tu sais, il y a tellement de subtilité dans tous les dossiers de financement qui peut faire vraiment une grosse différence. Fait que si vous voulez avoir plus d'informations pour le colloque annuel en février, on reçoit nul autre que Luc Poirier pour les déjeuners, pour les colloques, des visites de chantier ou d'usine. On parle de faire un voyage aussi à l'international avec la gang. Fait que ça va être quand même très cool. Allez sur le site web de réseauimmobilier.org. Vous allez avoir l'ensemble de l'information. Aujourd'hui, on est avec Félix-Olivier Brochu, propriétaire de Stoïka Immobilier. D'entrée de jeu, il nous a mis la table sur c'était quoi son parcours. Puis écoute, bien que il est ultra dynamique. Il est pas très vieux non plus. Là. On s'entend, il a un parcours incroyable, mais tu sais, t'es pas un gars de 40 ans non plus d'expérience dans l'immobilier.
C'est fait pas que... un vieux gars de 40 ans.
Ah non, non, c'est ça, c'est pas un vieux de 40, mais criff, il y a de l'expérience dans, derrière la cravate. Puis une des choses que t'aimes réellement faire, c'est tout ce qui est de développement de terrain. Fait que tu sais, j'aimerais ça que tu puisses me parler un peu du pourquoi que le développement de terrain t'intéresse autant puis te passionne autant. Puis qu'est-ce que t'aimes dans ces défis-là, parce que c'est pas toujours évident. Là.
Puis versus l'usager aussi. Là, ouais. Pourquoi tu choisis le développement de terrain versus investir? Il y en a qui investissent seulement dans l'existant. Toi, tu dis, là, moi, c'est la construction neuve, je suis vendu là-dessus. Fait que, tu sais, pourquoi tu t'en vas vers cette ligne-là un petit peu? Là?
Ouais, ben, tu sais, effectivement, ben, moi, je dirais, ce qui me passionne derrière ça, en fait, là, par rapport au développement de terrain, c'est vraiment que. C'est comme à Saint-Anselme, on est parti de trois terrains qui étaient que personne voulait, qui étaient désuets, bon, délabrés un peu en ancien site d'enfouissement qu'avant les gens enterraient leurs ordures. Puis finalement, on a monté un projet, on construit 18 logements en l'espace de comme un an et demi. Puis là maintenant, c'est 18 familles, 18 foyers que les gens sont super contents d'habiter là. On va installer des jardins cet été, donc 18 jardins. C'est comme une communauté qui s'est créée dans un genre de petit rond-point à Saint-Anselme de Bellechasse. Puis c'est de voir le résultat final, en fait, là, de partir d'un tas de terre puis d'arriver avec un projet de développement, avec un milieu de vie pour des gens, puis de le taguer Stoïka Immobilier, moi, ça me rend extrêmement fier. Puis au-delà de tout ça, en fait, moi, ce que je pense, c'est... Tu sais, je pense souvent aussi à le paysage architectural de demain, là, du Québec. Puis je pense que c'est... On en avait parlé un peu dans la pré-entrevue, mais c'est quelque chose qui guette beaucoup le Québec en ce moment avec un manque de logements... épouvantable. En fait, c'est extraordinaire le nombre de logements.
Je pense que tu as voyagé à une couple de places aussi là, pour voir ce qui se faisait ailleurs à ce niveau-là.
Ouais. J'ai voyagé beaucoup. Je fais tout le temps un ou deux gros voyages par année. Puis ce qu'on voit, ce qui se passe à l'étranger, le Québec, en ce moment, on n'est pas en track d'atteindre ce qu'il faudrait faire pour avoir des belles villes de demain. T'sais. Puis en ce moment, il manque 300 quelques mille logements au Québec. On prévoit qu'il va en manquer presque 1 million d'ici les 10 prochaines années. Là, le dernier rapport de la SCHL, ça ressemblait à ça. Fait que moi, ce que je vois, ce qui nous guette comme problème en ce moment au Québec, c'est de construire puis normaliser la construction puis de commencer à faire tous des genres de projets, des boîtes à beurre identiques puis des projets qui sont
comme
pas...
une usine à créer du logement.
Ouais, exact. Là, parce que ultimement, si on fait ça, ben on va se ramasser avec des genres de villes mal densifiées, mal optimisées, avec des projets architecturaux qui sont pas intéressants à l'œil, qui sont pas intéressants pour les gens qui y habitent. Puis je veux dire, je comprends que c'est ça qu'il faut faire. Il faut construire, mais il faut construire intelligemment puis il faut bien le faire. Puis moi, je pense que c'est un problème qui guette le Québec en ce moment énormément. Parce que, bon, on a une crise du logement, en plus, au Québec, qui est encore plus grave que certaines provinces canadiennes à travers notre façon de gérer... Bon, je ne vais pas tomber dans la politique, là, mais la...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
De toute façon que le gouvernement a géré la crise depuis 40 ans. Parce que c'est une crise qui a commencé il y a 40 ans. Là, que c'est, je veux dire, faut pas
se mettre dans la tête dans le sable aujourd'hui pour dire « Ah, crime, c'est nouveau. Ça fait 40 ans qu'on est au courant de ça. » Un peu comme les hôpitaux avec la pandémie. Là. Tout le monde est au courant que ça allait chier. Puis, tu sais, finalement, c'est arrivé aussi. Puis, tu sais, est-ce que tu sens justement au niveau du ministère, au niveau des municipalités, qu'il y a quand même une volonté des différentes autorités à vouloir aller dans cette direction-là ou eux autres, ils veulent aller plus sur la facilité parce que, tu sais, je veux pas enlever le mérite aux municipalités puis aux différentes autorités, mais le casse-tête, c'est beaucoup l'entrepreneur puis le promoteur là, qui lui, se casse le bicycle pour voir la rentabilité, intégrer un nouveau projet puis de voir le futur parce que la vision de l'entrepreneur puis du promoteur, des fois, est différente de qu'est-ce que la municipalité veut projeter dans ses premières.
Ouais, ben moi, tu sais, je te le dis tout de suite, là, on passera même pas proche, là. Tu sais, je pense que en ce moment, ce qu'on voit avec les municipalités, il y a quand même un désir de vouloir construire, mais tu sais, je veux dire, bon, le gouvernement fédéral, il a enlevé la TPS, exemple, sur les constructions neuves, là. Mais la TVQ, on a entendu que ça suive, ça n'a pas suivi. Ben, elle a non seulement pas suivi la TVQ, mais est un peu désuète par rapport au coût de construction aujourd'hui. Là, on est la seule province canadienne qui a encore un taux de TVQ qui est autant élevé sur les immeubles neufs, sur la construction, sur l'habitation. Donc, on taxe un besoin essentiel. Puis en plus, à partir de 200 000 $ par logement construit, ils chargent la TVQ complète. Là. Fait que tu sais, je veux dire... C'est absurde. Il n'y a pas aucun logement
construit en bas de...
Depuis 2012. Il n'y a plus rien qui se construit en bas de 200 000 la porte. Là. Fait que, je veux dire, on est en retard. Le gouvernement, je pense, il a pris 4 ans à reconnaître qu'il y avait une crise. Là, je veux dire, c'est quand même... Sans vouloir critiquer, je pense que en ce moment, ce qu'on voit, il y a des grandes villes qui essayent de faire des projets, qui essayent de... Mais les logements sociaux, oui. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut augmenter l'inventaire. Là. C'est la première solution à ce problème-là qui est majeur.
Sauf qu'une des problématiques qu'on a, c'est que le terrain est limité. Là. On ne peut pas juxtaposer ou rajouter une couche supplémentaire par-dessus ton terrain. Ton
ben, on pourrait densifier plus, autoriser des hauteurs.
Ça, ils ont commencé.
Plus, mais ouais. Mettons, la Ville de Québec, là, ils ont l'air d'être...
Ils sont chambranlants là-dessus. Je veux dire, la Ville de Montréal disait qu'ils voulaient faire ça. Par ça, ils ont taxé les constructions neuves. Le nombre de logements, il y avait une taxe par logement que tu construisais. Donc, d'un côté, la mairesse a dit qu'elle veut augmenter l'inventaire de logements, mais de l'autre côté de la bouche, elle taxe les constructions neuves. Mm-hmm. Je veux dire, il y a un non-sens qui se fait, puis tu sais, en ce moment, ce qu'on voit, ben, tu sais, bon, il faudrait, là, dans les 6 prochaines années, qu'on ait un taux de construction historique pour arriver à un genre de 350 000 logements. Puis après ça, il prévoit qu'il manquerait encore 2,5 fois ce nombre de logements-là pour atteindre l'abordabilité générale.
Puis tu sais, du bâtiment, du logement, tu fais pas ça en claquant des doigts, là, quand tu cibles un terrain... Là, tu l'achètes, après ça, tu fais les démarches, les plans, les demandes, tout ça, ça prend puis, deux, trois semaines.
Il manque la main-d'œuvre, ultimement. Il manque la main-d'œuvre en construction. Nous, avec notre partenaire Harold Turmel, on réussit à avoir la main-d'œuvre qu'on a de besoin, mais je veux dire, il manque la main-d'œuvre. Le dernier programme avec le ministre Fitzgibbon, je pense que c'est intéressant. Il paye les gens pour aller étudier à l'EMOAC pour faire le cours de construction. Mmh. Il s'attendait à 5 000 demandes, on en a reçu 30 000. Fait que je pense que c'est positif. En même temps, on s'en payait environ l'équivalent de 3 000 $ par mois pour aller à l'école. Donc, je pense que...
Il y a une obligation de terminer le programme avec ça?
Oui, c'est ça. Ils sont-ils obligés de travailler 2 ans après le programme de formation?
Il faudrait que ça soit ça.
Ben oui, 100%.
Parce qu'il y a beaucoup de gens au salaire minimum, tu gagnes moins que...
3 000 pièces par mois.
Fait que c'est qui? Je veux dire, c'est sûr que tu vas aller étudier, mm-hmm. tu vas faire un cours en DEP. Je pense que c'est positif, mais il manque la main-d'œuvre. Même la chaîne d'approvisionnement, ultimement, depuis la pandémie, on a de la misère à fournir certains matériaux. Fait que... T'sais, manque de main-d'œuvre, manque de terrain, manque de matériaux, puis il faut construire. Fait que, moi, je pense que c'est un problème, t'sais, que malheureusement, au Québec, on va encore plus y goûter que certaines provinces canadiennes. On s'attend à des mesures, on s'attend à un APH Select, là, en fait, avec le programme de la SCHL boosté. Là. Dans les prochaines années, je pense que ça va venir.
Tu penses que ça va être encore plus permissif, mettons, là, que les paramètres qu'il y a là?
Tu sais bien qu'à un moment donné, c'est que si la volonté du gouvernement veut arriver à des résultats, il va falloir qu'il y ait un commitment puis une implication du gouvernement pour que ça arrive à quelque chose aussi. Puis, tu sais, c'est bien beau d'avoir des belles intérêts, des beaux terrains, puis... C'est des beaux projets, mais à un moment donné, c'est que les promoteurs et les entrepreneurs supportent l'inventaire des terrains, supportent le délai de construction. Puis, je ne veux pas être plate, mais combien de fois qu'on a déjà entendu par quelqu'un d'une municipalité quelconque de dire « Écoute, je comprends que pour toi, ça retarde ton projet. Moi, je n'ai rien à battre. » Là, mais ça peut avoir des milliers puis des centaines de milliers de dollars d'impact sur un projet. Fait que, c'est sûr que si tout le monde ne met pas la main à la pâte pour arriver... à une piste de solution là-dessus, ça va faire en sorte que... Je pensais pas qu'on allait aller dans un segment politique autant que ça.
Ouais,
mais
ça
l'amène ça, là.
Je pense que c'est dur de parler de développement immobilier maintenant en 2024 sans parler de l'aspect politique de la chose. Il faut que les trois parties gouvernementales embarquent. Il faut que le municipal embarque, il faut que le provincial embarque, il faut que le fédéral embarque. T'sais. Je veux dire, sinon, on n'y arrivera pas. Puis bon, moi, j'avais une discussion avec un ami qui me parlait de l'intervention de l'État dans le problème. Est-ce que ça pourrait être une solution? Moi, je ne suis pas un fan de l'intervention de l'État, mais c'est l'intervention de l'État qui a créé le problème, ultimement. Fait que, avec le contrôle des loyers qu'on
connaît. C'est exactement ça que j'allais dire. T'sais, on contrôle les loyers, on veut créer de la construction. Après ça, on contrôle les loyers, ce qui fait que ça génère moins d'investissements aussi dans le parc immobilier. Fait que, le gouvernement veut régler le problème, mais il crée le problème.
Tu rénoves un logement en 2024 dans l'usager, puis moi, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai voulu quitter le domaine de l'usager. Ça prend 65 ans temps pour avoir le retour sur investissement de ta fenêtre, ta salle de bain.
Je suis d'accord avec toi, sauf que la défense, mettons, pour me faire l'avocat, tu dis, ah, par contre, tu rénoves un appartement, tu vas le louer en ce moment très cher. Fait que, ça, oui, ça va prendre 60 ans à retrouver ton argent, tout ça avec les augmentations du temps, etc. Mais quand tu le rénoves et tu le reloues à quelqu'un, mais tu sais, ton immeuble, mettons,
il prend une prise de valeur immédiate.
Tu loues 1 500, il était 800 $ exemple.
Mais il faut que tu respectes la clause G, normalement. Tu sais. Fait que si tu respectes la clause G...
C'est sûr que si on embarque dans la clause G...
C'est ça. Puis, tu sais, il y a toujours le calcul aussi des améliorations puis des investissements qu'on peut faire, etc. Fait que, tu sais, mais définitivement que ça devient quand même un lourd fardeau pour les promoteurs, les propriétaires d'immeubles à revenus. On veut avoir une certaine rentabilité sur l'immeuble parce que si on n'a pas de rentabilité, on ne construira pas. Puis c'est un peu le ralentissement qu'on voit actuellement, c'est que les promoteurs puis les entrepreneurs ne construisent pas actuellement parce que, tu sais, financièrement, ça fait pas de sens. Fait qu'eux autres, pendant ce temps-là, ils préfèrent payer les taxes sur leur terrain, d'attendre que l'accalmie se passe, puis après ça, ils vont pouvoir réinjecter lorsque les paliers vont être plus conscients.
Puis leur terrain fait juste prendre la valeur pendant ce temps-là aussi. T'sais, eux autres, ils ont...
C'est ce que j'ai vu. Là, depuis 2023, ça a été très difficile pour développeurs, promoteurs, constructeurs en immobilier. Puis moi, à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste fait, sais-tu quoi, nos terrains prennent la valeur, les terrains qu'on a achetés prennent la valeur, on va laisser la tempête passer, puis pendant ce temps-là, notre actif net monte quand même. C'est même qu'on l'a envisagé, puis je veux dire, on a passé à travers 2023 avec la hausse de taux historique qu'on a connue. Mais c'est ça qui est plate, hein, dans le fond, c'est que moi, d'un bord comme de l'autre, à la situation, à l'endroit où on est rendu comme dans notre carrière d'investisseur immobilier, on est un peu gagnant. T'sais, si la construction se met pas de l'avant, puis si les gouvernements embarquent pas, puis si on construit pas plus de logements, l'inventaire qu'on a déjà, qui arrive à 84 portes là, à la fin de 2024-2025, elle va prendre la valeur de façon considérable.
Ben oui, parce que tu sais, il n'y aura pas de produit de remplacement qui va faire en sorte que
il y a une rareté,
tu vas être la seule alternative disponible qui va faire en sorte que tes prix vont être plus élevés parce que justement, il n'y a pas de nouvel inventaire qui rentre sur le marché. Puis, tu sais, dans des projets aussi que tu parlais au niveau de développement de terrain, tu as des projets aussi qui sont plus difficiles à faire passer. Les projets sont de plus en plus durs à faire passer justement par la municipalité. Il y a des méthodes de travailler avec la municipalité. Tu sais, moi, dans la façon que j'ai toujours travaillé avec la municipalité, c'est d'arriver avec une volumétrie quasi exagérée qui, par la suite, l'architecte, le comité met leur crayon dessus. Tu viens faire tes réajustements de volumétrie. Puis là, ben, tu sais, ils se sentent écoutés puis ils sentent qu'ils ont un impact sur le projet versus que d'y aller à la dure, voici mes plans, voici qu'est-ce que je veux faire puis voici qu'est-ce qu'il y en est. Bien, là, ils sont obligés d'analyser 100% l'ensemble du projet versus que si sont impliqués dans le projet, ça arrive beaucoup plus vite. Mais, tu sais, j'aimerais ça que tu puisses, sans nécessairement donner d'adresse, etc., mais, tu sais, il y a des projets qu'à première vue, on va avoir l'impression qu'on va pouvoir construire un 12, un 16 logements. En creusant, en se posant des questions, etc., on arrive à une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire qui fait en sorte que, finalement, tu es peut-être capable d'augmenter puis de densifier. Mais, crime, c'est des beaux succès, là, parce que ça, c'est tu sais, un revenu net qui est développé directement par ta vision puis ta réflexion que tu as sur le projet.
Oui, ben 100%. T'sais, nous, en fait, là, avec un de mes partenaires, là, Olivier Carrier, avec qui j'étais au secondaire, qui est un bon ami de longue date, on a créé Développement Aurelius en fait en 2023. Puis on se concentre 100% sur le développement immobilier. Puis on vient de livrer 2-6 logements là, à Saint-Étienne qui ont été loués en l'espace d'un mois. Là. Il en reste seulement un à louer en ce moment. Là. D'où le manque incroyable de logements. Puis après ça, on s'est vraiment concentré sur le développement, d'où Développement Aurelius. Puis avec ça, ben, tu sais, en janvier 2023, en fait, j'yeutais un peu par rapport à des secteurs qui me plaient beaucoup en ce moment, dont Saint-Nicolas, à Lévis, sur la rive sud de Québec, proche des ponts. Puis on a trouvé un terrain qui était à vendre, mais qui était à vendre à un prix qui était complètement absurde. Là, puis le projet qui était accepté sur ce terrain-là, c'était un projet de 16 logements.
Le prix absurde dans le sens cher ou pas cher?
Absurde cher, là. Okay. Absurde deux fois trop cher. Là. Je veux dire, c'était complètement ridicule pour ce que c'était. En fait, même, je dirais peut-être jusqu'à trois fois trop cher. Puis au lieu de faire ce que je pense que la plupart des gens ont fait quand ils ont vu le terrain sortir, de juste même pas prendre la peine de le regarder puis de cliquer sur le lien puis d'appeler le courtier puis d'en jaser, là. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de regarder le terrain, de l'analyser avec une urbaniste qui est quand même connue au Québec, là, Margot Bardot, qu'on a engagée, qui nous a aidé à regarder de point de vue urbanistique qu'est-ce qui était possible de faire avec un terrain aussi grand à la tête des ponts de 44 000 pieds carrés. Puis on s'est rendu compte que très vite que 16 logements, c'était absurde, qu'il rentrait beaucoup plus de logements que ça dans un contexte de pénurie de logements. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce terrain-là? Puis on l'a développé, finalement, on l'a acheté avec quand même un certain risque de se faire refuser par la ville de un, puis de pas pouvoir faire le projet qu'on voulait faire en termes de rentabilité. On l'a négocié effectivement à la baisse de quasiment la moitié, là, parce que ça faisait pas de sens sinon, mais finalement, ce qui était au départ un 16 logements, qui est devenu un 20 logements, ensuite un 24. Dernièrement, après ça, cet été, on était autour de 32-33 logements. Puis là, dernièrement, on a comme encore plus densifié à travers l'optimisation du terrain, puis peut-être une genre de servitude avec un terrain adjacent. On est rendu à 46 logements qui va se construire au printemps 2024.
Là. Wow! Fait que là, on parle d'un projet de 16 logements à 46 logements. Fait que c'est une création de valeur assez importante de 30 logements supplémentaires.
Oui, mais quand on pense, mettons, qu'un terrain sur la rue de Québec va se vendre autour de 35-40 000 par logement, la porte, là, ben, t'sais, on a payé environ 17 000 la porte. Là. Fait que, ouais,
c'est ça. Écoute, en créant ce nouveau projet-là, tu as créé une bonne équité que tu vas pouvoir te servir quasiment pour lever le projet. Là,
malheureusement, non. Okay. Mais la SCHL ne reconnaît pas les valeurs marchandes des terrains, ils reconnaissent le prix payé. Fait qu'il faudrait qu'on aille changer le zonage pour vraiment aller chercher une plus-value qu'il pourrait utiliser pour la mise de fonds du projet. Mais le terrain vaut deux fois, sinon trois fois plus cher que ce qu'on l'a payé, mais ça ne pourra pas être utilisé comme la mise de fonds.
Est-ce que si tu attends, mettons, deux, trois ans, oui, ce règle-là change?
Il faudrait attendre deux, trois ans, mais on n'est pas patient.
L'idée, c'est d'être dans l'action puis de faire bouger tout ça. Puis un des éléments que tu mentionnais aussi, c'est que dans le patrimoine bâti, vous désirez, puis vous avez un désir ardent là, de pouvoir laisser votre empreinte avec des beaux bâtiments, avec une architecture là, justement qui laisse sa marque.
Ouais.
J'aimerais ça que tu puisses me parler un peu de ta vision aussi sur la création des logements, puis pas juste de faire des boîtes à beurre comme on a parlé justement avant. Là.
Ben, tu sais, puis en ce moment, avec la PHLX, ça nous aide aussi à créer des logements qui sont intéressants de plusieurs points de vue, autant éco-énergétiques qu'abordables, mais aussi pour l'accessibilité des personnes handicapées. Puis nous, notre prochain projet, dont le 46 logements, va avoir un style architectural unique là, dans la région de Québec, en fait. Là, ça s'est pas vu souvent, un genre de projet de ce style-là, avec une passerelle, une terrasse sur le toit, ultramoderne, un gym, un ascenseur, des stationnements souterrains. Oui, ça, on a vu ça. Mais le style architectural du bâtiment est unique. Puis on n'a pas eu le choix de le faire à travers la forme du terrain. T'sais. Fait que c'est des fois, ce qui est un peu problématique au départ, qui est un peu comme...
Devient
un bénéfice, ultimement. Là. C'est ce qu'on a fait. On a travaillé ça avec... C'est Guy Architect qui a fait nos plans, qui est 100% brique. Le bâtiment va être 100% brique avec des super de grandes fenêtres, encore une fois, triple verre pour l'efficacité énergétique. On essaie d'aller se carrer 40% au-dessus du code en termes d'efficacité énergétique. Donc, nos futurs locataires, nos futurs clients vont pouvoir bénéficier en fait d'un logement qui va être non seulement parfois abordable, parfois petit, le terme abordable il est large, là, mais aussi efficace de façon efficace énergétiquement, qui vont sauver sur leur facture d'électricité à tous les mois. Puis au-delà de ça, de vivre dans de quoi de beau, dans le quoi que les gens sont fiers d'inviter leur famille, de faire des parties avec la terrasse sur le toit en plus, avec la vue sur le fleuve partiel. Puis
dans un super secteur, Saint-Nicolas, t'as des ponts en plus. Ouais. Là,
je pense que c'est vraiment important. Au-delà d'un profit puis d'un signe de valeur nette à la fin du bilan, je pense que de créer de quoi qui, dans le temps, va perdurer. Puis le projet va s'appeler l'Archimède. Là, donc, c'est Archimède Immobilier. C'est une compagnie qu'on a créée aussi en 2023 qui va être propriétaire puis développeur du projet. Bien, puis ça donne un peu la vision qu'on a à travers l'immobilier. Là.
C'est quand même ultra intéressant. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11h, juste après le jargon de Guillaume Fortin, mais aussi juste avant Zone Parallèle. Nos émissions sont disponibles toujours en podcast sur Spotify, Apple Podcasts, puis Balados aussi. Il faut vraiment pas manquer ça. On tient à remercier Air Fortin de commanditer notre show quand même depuis plusieurs saisons. Un gros merci à Fortin.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
Yes. Lui, il va l'acheter ton bloc.
40 Boulevard Sainte-Anne à Québec.
Vous êtes de retour à la bulle immobilière avec Michael Faleschini et Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Vous avez un besoin pour vendre ou acheter une propriété, que ce soit unifamiliale, multilogement, terrain, by the way, commercial, industriel, vous pouvez me contacter. On a une équipe d'experts autour de notre équipe qui sont là pour vous aider. Puis justement, dans le commercial, j'ai une rencontre après l'émission où ce qu'on est en train de développer des nouveaux partenariats d'affaires pour augmenter la performance au niveau commercial. Fait que ça s'en vient quand même. Notre volet commercial 2024 s'en vient à planche. Une des choses qu'on a parlé hors d'onde, mais aussi, tu sais, ça vient toujours sur la question, puis j'aimerais ça qu'on puisse avoir une réponse là-dessus. Félix, Olivier, comment qu'on arrive à financer des projets? Tu sais, quand on parle de 46 logements, qu'il n'y a pas aucun logement qui est construisible ou, tu sais, réalistement en bas de 200 000, Ben Christy, c'est un projet de plusieurs millions de dollars. Mm-hmm. Comment qu'on arrive pour faire financer ces projets-là? Puis une des questions que Michael avait aussi, c'était toute l'histoire de pour quelle raison que toi, tu vas te nicher beaucoup plus vite, pas beaucoup plus vite, mais pourquoi que tu vas te nicher sur le neuf versus que d'autres vont préférer peut-être le marché de la revente?
Oui, ben pour le neuf versus l'usager, moi, j'ai pris la décision, finalement, entrepreneuriale, là, des deux, trois dernières années, là, j'ai voulu acheter, pendant un moment, on voulait acheter beaucoup à Limoilou, 3e avenue, 4e avenue. J'ai failli acheter un 4 logements, un 3 logements, en fait, sur la 3e avenue, qui était zonée pour du 4. Puis, en faisant les visites, dans le fond, les vérifications diligentes et tout, puis en faisant les visites des logements, il y avait deux personnes sur trois, que c'était des madames âgées, qui vivaient là depuis une dizaine d'années, qu'elles, ils voulaient vivre là jusqu'à leur mort. Puis, tu sais, je veux dire, puis on les comprend, parce qu'ils payaient comme 650 par mois pour des 5,5, quand même, d'assez grande grandeur. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est impossible, en fait, le modèle d'affaires en ce moment au Québec du usager, d'acheter ça puis d'avoir un profit, d'être profitable sur ce type d'investissement-là sans tomber dans une genre de rénoviction, tu sais. Puis moi, j'avais pas envie d'aller là, pas que je suis meilleur qu'un autre puis quoi que ce soit, mais moi, c'est pas ça que j'avais envie de faire d'un point de vue entrepreneurial. Je préfère de très loin créer des nouveaux logements qui, eux, vont tout de suite aller chercher leur clientèle cible qui est à l'aise de payer le montant qu'on loue par mois, puis que ça rentre dans leur budget, puis qu'ils sont contents avec ça, au lieu d'acheter de quoi d'usager, rénover, puis avec ce qu'on connaît au Québec avec le contrôle des loyers, c'est très difficile de relouer au prix que ça vaut au niveau de la valeur marchande. Donc moi, c'est la décision entrepreneuriale qu'on a choisi de faire. Écoute, bon, si vous me proposez un 12 logements à moitié prix, je vais l'acheter, mais ça va être dans l'objectif de le conserver selon les revenus qu'il y a au moment de l'achat. Ça sera pas dans le but de rénover puis de relouer 1000 piastres plus cher.
Puis est-ce que tu trouves qu'en faisant du neuf, ton retour sur la mise de fonds va être un peu plus long?
Moi je pense, c'est sûr que mes expériences dans l'usager ont été une catastrophique puis une correcte. Là. Fait que c'est sûr que moi, en ce moment, dans le neuf, avec la prise de valeur de l'immobilier qu'on a vu dans les dernières années, on est autour de comme... Mon premier 8 logements, je pense qu'on est rendu à 300% de rendement là, en 4 ans. Là. Donc, c'est sûr que c'est majeur. Bon, dans mes autres projets que j'ai faits, ça va plus souvent tourner autour du 25-30%. Mais là, tu sais, ça revient un peu au fait que c'est un rendement qui est intéressant, mais c'est une job qu'on s'achète. Là. Moi, dans le fond, j'ai l'impro taille des headsets qui m'occupe la moitié de l'année. Mais la deuxième moitié de l'année, ce qui fait que mes projets sont bons et qu'on fait du 25, 30, 35 de rendement, c'est parce que je suis à 100% là-dedans, les deux mains là-dedans, à la moitié de l'année. Puis l'autre moitié de l'année, je suis de plus en plus dedans aussi. Je passe beaucoup de temps, des fois, dans le truck à faire des appels pendant que mes gars qui ont 4-5 ans d'expérience taille des headsets chez les clients. Là,
puis, on parlait, là, Jeff, de l'entrée de jeu, comment que tu finances tes projets. Il y a le financement bancaire ou conventionnel, mais il y a aussi le financement des mises de fonds. Tu as du partenariat. Comment tu gères le financement, tes partenariats, les parts, tout ça, quand vous injectez les fonds dans le projet?
Bien, pour le 46 logements, c'est sûr et certain que, là, premièrement, il faut garder en tête qu'au début, quand on a acheté, c'était un 16. J'étais encore en mode chercher la mise de fonds pour ce projet-là. Ça va bien, là, mais somme toute. Là. Mais c'est sûr et certain qu'il y a un aspect de partenariat là-dedans. Là. Puis moi, j'ai longtemps été le gars qui voulait tout faire tout seul, puis monter un gros parc tout seul, avoir 100 logements à moi. Puis je me suis vite rendu compte que, bon, la fameuse phrase, là, tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Là, mais c'est vraiment un point de vue, là, ça prend du partenariat, ça prend des gens qui ont les liquidités pour embarquer. Puis moi, j'agis à titre de développeur. Là. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai une rémunération en termes de pourcentage du projet par rapport au temps que je mets. Puis tu sais, dans le cas du 46 logements, c'est moi qui ai non seulement trouvé le terrain, mais qui a aussi développé le projet, qui a fait prendre la valeur au terrain. Donc ça se rémunère en termes d'actifs, en termes de part dans le pourcentage de l'immeuble. Donc moi, c'est comme ça que mes projets vont se faire à l'avenir de plus en plus à travers des partenariats. Je vais agir à titre de développeur, puis je vais avoir des parts à titre de développeur.
Puis ça, c'est comment que ça fonctionne? C'est un pourcentage du coût total du projet?
Ça change.
C'est du cas par cas?
C'est du cas par cas. Ça change vraiment tout le temps. Ça dépend de l'ampleur puis du profit réalisable sur le projet en termes de rendement. Il y a vraiment toutes sortes de façons de le faire. Moi, ce que je vois souvent, là, c'est qu'on va être autour de 1,5% du coût final du projet qui va être rémunéré au développeur. Fait que si on parle d'un projet de 13 millions, 13-14 millions pour un 46 logements en coût, là, même peut-être, tu sais, dépendamment, la valeur va être plus élevée que ça, là, puis on a un 1,5% de ça. Là, donc, on va quand même chercher un genre de 200-300 000 de revenus rémunérés en termes de part pour la mise de fonds. Si on a une mise de fonds de 200 000, ben, c'est pas long que tu as déjà 10% de l'immeuble.
Là. Donc, le 200 000 en question, tu ne vas pas nécessairement le toucher, mais il va t'être attribué en part.
Okay? Exact. Fait que dans le fond, c'est un peu le classique d'investisseur immobilier. Là, tu vis en pauvre, tu n'as pas de rémunération, mais ça, niveau valeur nette.
Une grosse valeur nette, mais pas une scène d'impôt.
C'est ça. J'ai conduit un Dodge Caravan 2001 jusqu'en 2019, là, pour vous donner une idée.
Ouais, puis tu sais, c'est souvent ce qu'on voit aussi, mais il reste que c'est des défis quand même. Tu sais, la game se passe au niveau du financement, puis tu parles d'un projet de 13, 14, 16, 17 millions, tout dépendamment de vers où que ça va prendre l'ampleur, puis les différentes contraintes que vous pouvez avoir avec ça. Mise de fonds, 2, 3, 4, 5 millions, là, on parle pas de 2, 3, 4, 5 000, là, on parle de millions de dollars. Puis ça fait en sorte que, tu sais, il y a des fois qu'on est leveragé déjà sur nos autres projets immobiliers qui fait en sorte que on n'est pas capable d'avoir un take-out pour aller chercher cet argent-là. Fait que, tu sais, est-ce que c'est toujours les mêmes partenaires qui s'ajoutent à l'intérieur de vos projets ou il va y avoir des partenaires plus passifs qui, eux, vont injecter la mise de fonds et là, eux autres vont avoir une certaine part sur l'ensemble de l'immeuble?
Pour les plus gros projets, là, ça va y avoir des partenaires passifs qui vont embarquer. Jusqu'à présent, j'ai été chanceux de monter un parc relativement tout seul à travers l'injection de capital, de nouveau capital. Mais mettons, dans les projets de 2-6 logements, on est 50-50 avec mon ami, mon collègue Olivier Carrier. C'est sûr que par après, ben pour les plus gros projets, il va y avoir des partenaires passifs qui vont embarquer. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, puis c'est ce que je pense que, dans le fond, Stoica Immobilier et Développement Aurelius, on est en très bonne position pour l'avenir, pour une croissance intéressante, c'est qu'on n'a jamais refinancé encore nos immeubles. Donc, tous nos immeubles, en ce moment, il reste du jus en masse. Là. On n'a jamais refinancé. Fait que, moi, je pense qu'au moment qu'on va commencer à refinancer après le premier terme en 2025, 2026, 2027, on va pouvoir tirer sa gâchette puis aller de l'avant sans même avoir des partenaires pour des plus gros projets.
Puis, tu sais, on va se le dire aussi, là, les programmes qui vont être là pour aider les promoteurs, entrepreneurs, la construction, etc., vont sûrement être plus favorables aussi 2026-2027 parce que là, tu sais, la crise de logement va perdurer. Ça se réglera pas de toute façon dans les deux prochaines années. Là. Puis tu disais que 30 ans environ?
30 ans pile.
30 ans, fin 2024, fin 2025, 84 logements, tous neufs.
Ouais.
C'est un peu ça le plan de match. Puis c'est quoi les orientations de votre entreprise?
Nous, on aimerait, là, d'ici 5 ans, monter autour de 220 logements. Là. Donc, un peu plus que doubler en 5 ans, je pense que c'est réaliste, surtout considérant qu'on n'a jamais refinancé. Ça serait ça l'objectif, mais au-delà d'un nombre de portes ou d'un actif en termes de dollars, je pense que ce qu'on veut essayer de faire, c'est de créer des projets qui vont être beaux, qui vont perdurer dans le temps, puis qui vont aussi répondre à une genre de normes un peu environnementales, sociales, pas juste créer pour nous puis pour nos fonds de pension, mais aussi créer pour la société puis créer des projets qui vont être intéressants pour nos clients puis pour nos locataires à y vivre. Puis, tu sais, ultimement, là, en fait, moi, je pense que le gouvernement, en ce moment, il nous donne les réponses à l'examen un peu, là, avec des programmes comme la PH Chelec, qu'on a des classements, notre projet est classé en termes de pointage sur une efficacité énergétique, sur de l'abordabilité, sur de l'accessibilité pour les personnes handicapées. Je pense qu'en ce moment, ce qui arrive, c'est que pour le futur, il y en a qui parlent du ESG, là, le fameux Environmental Social Governance, là, mais je pense que ce qui s'en vient, c'est que les entreprises, pas juste les développeurs immobiliers, mais les entreprises vont être classées un peu à travers ça en termes de qu'est-ce que le projet rapporte au niveau environnemental, au niveau social, puis au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Puis nous, on s'en va développer dans cette optique-là. Fait que d'ici 5 ans, c'est d'avoir un genre de 220, peut-être 250 logements si l'opportunité nous est présentée. Toutes neufs, de grande qualité, mais aussi d'un point de vue social, architectural, visuellement, qui sont intéressants pour...
Puis en valeur d'actifs, ça donne combien?
Il faudrait faire un calcul, là, mais moi, je pense que d'ici 5 ans, les logements neufs vont valoir peut-être autour de 340-350 000 par logement. C'est déjà le cas dans certains projets. Fait que...
Quand même... impressionnant pour vrai. Je trouve ça drôle de qu'est-ce que tu parles aussi parce que, tu sais, on parle beaucoup de crédit social. On a déjà rencontré plusieurs personnes qui ont parlé du crédit social aussi. Puis, tu sais, on s'en va vers là sur le bon citoyen corporatif avec le crédit social, etc. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même complètement fou. Si jamais tu es un gars qui a de l'air à être ultra ouvert à vouloir partager, jaser, donner des trucs, des conseils, etc., est-ce que tu es à l'aise de donner ton profil, de quelle façon que les gens pourraient communiquer avec toi?
Oui, ben absolument. Là, à travers Stoica Immobilier ou Développement Aurelius, moi, c'est moi qui gère les pages. Aussi, les gens peuvent m'écrire via LinkedIn maintenant. Là, je pense qu'ils fonctionnent beaucoup à travers ça. Moi, je suis ouvert, puis ce que je vois aussi beaucoup, dans les dernières années, il y a beaucoup de... Moi, j'avais pas prévu, hein, quand j'ai commencé à investir en 2014, que l'immobilier aurait l'engouement qu'il y a eu dans les dernières années. Il y a une popularité qui s'est installée. Je pense que les gens sont de plus en plus conscients de l'impact puis de la possibilité de ce qui est possible de faire en immobilier. Mais moi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à venir des formations, puis il y a beaucoup de choses un peu absurdes qui vont se dire, ou des formations qui se vendent à des prix c'est complètement ridicule pour ce que le contenu qui est dit. Moi, honnêtement, j'ai eu la chance d'avoir 2-3 mentors dans ma vie qui m'ont donné beaucoup de conseils gratuitement très tôt. Puis moi, écoute, si quelqu'un commence puis qui a envie de m'écrire, ça me fait plaisir.
Wow, c'est quand même vraiment cool. Merci beaucoup, Félix-Olivier Brochu, propriétaire de Stoica Immobilier. Merci, Michael, d'être présent avec moi, de co-animer la bulle immobilière. Je te le dis, la saison 12 est malade. J'ai même pas hâte que ça termine. Merci à nos auditeurs pour votre fidélité à écouter notre show. Toujours disponible le samedi 11h. Si jamais vous avez manqué, c'est pas grave, c'est disponible. Allez consulter ça sur nos sites web, sur jean-françois-morin.ca ou sur groupemercini.com. Puis encore plus simple, labulleimmobiliere.ca. Je vous souhaite de passer un bon samedi, tout le monde. Je vous remercie. Bye-bye.
La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com.
Yes. Lui, il va l'acheter ton bloc.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.